à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Lucas Lazo, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Le Ridon, Rosalie Suc, réalisée par Alexandra Candilonguet et mise en onde ce matin par Baptiste Lénin. Dernier temps de notre série consacrée aux pays nordiques, après avoir parlé de ce mythe du progressisme scandinave, puis de la Norvège et la conquête de l'Arctique, et enfin de ce petit laboratoire politique qu'est l'Islande, place aujourd'hui aux peuples autochtones de la Laponie au Groenland. Quel avenir pour les peuples autochtones? C'est la question qu'on se pose ce matin.
Le plus grand problème aujourd'hui est le changement climatique. Parce que les choses que j'ai apprises de mon père et qu'il a apprises de sa mère et de son père ne sont plus les mêmes aujourd'hui. En 10 ans, le climat a tellement changé.
Les hivers sont de plus en plus imprévisibles. On peut avoir des journées très douces avec de la pluie, ça fait geler le sol. Et les rennes n'arrivent plus à gratter la terre pour accéder à leur nourriture.
Avant, ce fjord était recouvert de glace. Ça me permettait de pouvoir aller chasser avec mon traîneau et mes chiens. Mais maintenant, l'eau a remplacé la glace une bonne partie de l'année. Le bateau me permet de tuer davantage d'animaux parce qu'il agrandit mon terrain de chasse. Avant, les Inuits passaient leur vie à chercher leur nourriture. Maintenant, même moi, je suis moderne. J'ai un téléphone portable.
Alors que les ONG et les opinions mondiales ont fait de l'ours polaire la figure symbolique des effets dévastateurs du réchauffement climatique dans les zones polaires, on oublie parfois que la région arctique est aussi occupée par des peuples autochtones qui, eux aussi, y font face avec des effets ô combien dévastateurs sur leur mode de vie et leur culture. En effet, des Inuits du Groenland aux Sami en Laponie, en passant par les Nénètes, les Évinques en Russie, les peuples circumarctiques sont en première ligne d'un dérèglement du climat qui, là plus que n'importe où ailleurs, bouleverse la vie des hommes et menace la survie de ces peuples et de leur culture sans que l'on y prête tellement attention. Mais il ne faudrait pas penser qu'ils sont totalement passifs face à ces évolutions. L'adaptation est même une constante dans l'histoire de ces peuples et ils font même preuve d'une étonnante résilience, saisissant les nouvelles opportunités qui s'offrent à eux, tout en essayant de défendre leur territoire mis à mal par le développement rapide et risqué d'un certain nombre d'activités, de l'extraction minière à la sylviculture en passant par le tourisme de masse, on en parlera. Alors quelles sont ces menaces qui pèsent sur ces peuples autochtones du Nord? Comment s'adaptent-ils au changement climatique? Comment s'organisent-ils pour faire entendre leur voix? Et pour défendre leurs intérêts, comment préserver des cultures autochtones ancestrales tout en s'adaptant aux contraintes de la mondialisation et du réchauffement climatique. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Marie Rouet. Bonjour Marie Rouet.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche émérite d'éco-anthropologie au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes une spécialiste des Samis, entre autres, mais c'est votre terrain privilégié. Jean-Michel Huquetin, vous êtes également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes, vous, enseignant-chercheur en anthropologie au laboratoire CEARC, culture, environnement, arctique, représentation et climat de l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et l'université Paris-Saclay. Puis vous êtes cofondateur de l'Umanak Polar Institute au Groenland. Et vous, vous êtes un spécialiste des Inuits du Groenland. Alors, justement, j'ai déjà parlé des Samis, des Inuits. Peut-être faudrait-il un peu regarder qui habite là. Marie Rouet, je vais vous confier cette tâche ô combien difficile parce que quand on regarde les populations qui vivent un peu dans ce cercle arctique, j'ai une série de cartes en face de moi pour m'y retrouver, on a une multitude d'ethnies, de groupes avec des dominations parfois distinctes en fonction des localités. On a des Inuits, des Inupiats, des Samis, des Nénètes, des Évinques. Bref, on a certains groupes qui ont des modes de vie qui sont assez proches, on a d'autres qui ont des pratiques tout à fait spécifiques. Comment on s'y retrouve, Marie Rouet? Aidez-nous. Est-ce qu'on peut établir une forme de classification en fonction des langues, des pratiques culturelles, des modes de vie, où finalement c'est très difficile et on a autant de catégories qu'on a de groupes humains, Marie Rouet?
Bien sûr, il y a des peuples distincts. On peut dire qu'il y a des pêcheurs, des chasseurs et des éleveurs de rennes, d'autres animaux aussi, parfois, il y a beaucoup de noms différents qui sont en fait des Inuits, puisque à chaque fois, ils ont un nom correspondant au lieu où ils vivent. Mais on peut dire qu'il y a quand même, chez tous ces peuples circumpolaires, un mode de vie qui se recoupe en grande partie aussi, parce qu'il faut qu'ils s'adaptent à des régions quand même très particulières.
Est-ce que si je dis qu'en gros on a trois groupes, je l'ai découvert hier en préparant les émissions, cette émission, les Inuits, c'est-à-dire on est là essentiellement en Groenland, mais aussi un peu du côté de l'Alaska, et qu'on a à peu près 100, 120 000 individus, c'est des chiffres qui sont des évaluations.
Oui,
on
du a ensuite, côté de la Russie
voilà,
aussi.
La Russie aussi un peu. On a les Samis, qui eux sont au nord de la Scandinavie, et puis aussi un peu dans l'ouest de la Russie. Et puis les petits peuples du nord de la Russie, qui là, au fond, sont composés.
Oui, comme on les appelait autrefois.
Comme on les appelait autrefois. Mais en gros, on a
l'Union soviétique.
Voilà, c'est ça. En gros, on a trois groupes. Je schématise, mais c'est un peu ça l'idée.
Et puis il y a aussi les
Jean-Michel Inuits
du Canada. Oui, il y a aussi les Inuits du Canada. Vous les avez pas cités. Il faut pas les oublier. Ils jouent aussi un rôle important dans l'ensemble de ces peuples.
Jean-Michel Huctin, le phénomène auquel sont confrontés tous ces peuples, on a entendu dans le premier son introductif, c'est le réchauffement climatique. S'agissant du Groenland, par exemple, que vous connaissez bien, l'année 2019 avait été un record en matière de réchauffement, des températures records, une fonte des glaces inédite. Ça fait une vingtaine, une trentaine d'années que vous travaillez sur cet espace-là, que vous y allez régulièrement. Les signes les plus directement visibles de ce réchauffement, essayez de nous faire mesurer un peu ce que ça représente pour le territoire, pour les habitants, pour les modes de vie, Jean-Michel Huctin.
Alors, il faut savoir que le changement climatique, c'est un réchauffement qui est du double de celui que l'on connaît dans le reste du monde, en Arctique, avec 2 degrés d'augmentation. Et ce réchauffement, il est constant. On peut le constater au Groenland de manière beaucoup plus forte que dans nos pays où on commence à avoir nos étés caniculaires et les sécheresses qui s'ensuivent. Au Groenland, c'est le recul des glaces qui est le plus spectaculaire. D'ailleurs, les dirigeants du monde entier s'y précipitent pour le voir de grandeur nature, si je puis dire. Et donc, le recul des glaciers, le recul de la banquise qui se forme de plus en plus tard et qui part la banquise côtière de plus en plus tôt quand l'été approche. Et moi, j'ai pu le constater avec les Inuits depuis la fin des années 90, voilà, et des signes qui sont de plus en plus forts.
Marie notamment, ouais, je vous en prie.
Notamment une année sans banquise, des années sans banquise, et ça, c'est des choses qui sont incroyables.
Si on regarde Marie Rouet du côté des Samis, on se dit qu'a priori, si la neige est moins persistante, si la glace fond, eh bien la végétation est de plus en plus luxuriante et que donc il est plus facile, notamment, de nourrir les rennes. En tout cas, les rennes peuvent se nourrir plus facilement et donc, d'une certaine manière, le réchauffement climatique est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont éleveurs de rennes, sachant que je sais bien qu'ils le sont pas tous. Mais est-ce que là j'ai caricaturé Marie Rouet ou en réalité on a aussi des effets négatifs de ce réchauffement climatique pour ces éleveurs en particulier?
Oui, oui, on a tout à fait des effets négatifs parce qu'en fait, en règle générale, dans le Nord, ce qui est important pour les peuples autochtones, c'est la constance du froid. Et ce qui est dramatique, que ça soit de la neige ou de la glace, c'est un réchauffement qui fait fondre la neige ou la glace et ensuite un gel. Et en particulier chez les Samis, quand on a ce phénomène, on a ensuite une couche de gel sur le sommet de la neige et les rennes qui atteignent les lichens qui sont en dessous de la neige, ils doivent creuser. Et quand un gel se généralise et qu'on a une couche très très dure, ils ne peuvent plus creuser. Donc les effets des pluies verglaçantes, des passages du chaud au froid sont très difficiles pour les Samis également.
Donc ça veut dire que ça
et pour les rennes qui sont les éleveurs de rennes sont à peu près 10% de la population totale des Samis, mais ils sont très très importants dans leur mode de vie particulièrement distinctif.
Est-ce que ça veut dire précisément que s'agissant de leur mode de vie et de la question du nomadisme qui est très importante du côté des Samis, même si vous l'avez rappelé, c'est seulement 10% des Samis qui aujourd'hui élèvent encore des rennes, mais est-ce que ce mode de vie nomade risque d'être remis en cause par ce réchauffement climatique? Alors, je sais bien que le nomadisme n'est pas aussi généralisé qu'on peut l'imaginer dans la région, mais il y a quand même du nomadisme. Peut-être même pourrions-nous dire que c'est même du semi-nomadisme, parce qu'en réalité, on a des périodes de déplacement qui sont articulées à des périodes de sédentarisation. Mais en gros, est-ce qu'on peut imaginer, Marie Arouet, que ce réchauffement climatique va avoir comme effet à moyen terme, long terme, de finaliser un processus de sédentarisation et de fixer les groupes sur les territoires?
On ne peut pas parler aujourd'hui du changement climatique sans parler du changement global. Mmh. D'autant plus que le changement climatique, les dérèglements, s'ils sont défavorables aux peuples autochtones, ils sont dans beaucoup de circonstances favorables aux industries extractives, que ce soit la foresterie industrielle en Suède ou que ce soit l'extraction du pétrole, du gaz, des minerais, qui vont coûter moins cher. Et donc on a une précipitation de ces développements qui, eux, segmentent complètement le territoire, prennent de plus en plus de place, polluent et empêchent les déplacements, puisque, comme vous le disiez, il s'agit pour beaucoup de troupeaux de rennes de plusieurs centaines de kilomètres entre les territoires d'été et les territoires d'hiver. Donc il faut pouvoir se rendre d'un lieu à un autre, et pour cela, il faut que la route soit libre. Or, elle est partout, des mines, des barrages, des lignes de train. Donc tout cela va ensemble. Tous ces changements sont cumulatifs. Mmh. Et ils sont jamais vraiment considérés comme tels. Parce que quand on s'interroge, on se demande toujours l'effet d'un de ces changements. Mais pour les peuples, il faut malheureusement qu'ils prennent tous ces changements en même temps. Ils sont contemporains.
Oui, on va y revenir, évidemment. Vous avez évoqué la sylviculture, l'exploitation minière, les infrastructures, notamment ferroviaires. Il y a un projet sur lequel on reviendra, Marie-Rouet, parce qu'effectivement, il faut mettre tout ça dans un ensemble. Mais Jean-Michel Huquetin, sur la question du réchauffement climatique et de la préoccupation écologiste au fond de ces peuples autochtones, compte tenu des menaces liées au réchauffement climatique qu'on évoquait, on se dit que ce sont des peuples qui forcément sont de farouches écologistes et que donc on peut compter sur eux pour avoir de fortes exigences en matière environnementale, d'autant qu'on va l'évoquer. On a effectivement des perspectives de développement qui sont à la fois très intéressantes pour ces peuples, parce que ça veut dire à la clé du travail, de la prospérité, mais ça veut dire aussi des menaces s'agissant de leur mode de vie et de leur culture. Est-ce qu'on a raison? Au fond, la préoccupation écologiste est fortement ancrée et chez tout le monde, ou on surestime peut-être un peu cette fibre écologiste, Jean-Michel Huquetin?
Alors, ça dépend ce que l'on entend par écologiste. C'est une question problématique en ce qui nous concerne, nous, puisque différentes solutions, différentes visions de l'avenir sont aujourd'hui débattues. Mais il faut faire tout à fait attention à ne pas plaquer nos propres systèmes de classification ou de représentation sur des peuples qui sont différents par leur histoire, par leur culture, par la situation qu'ils vivent aujourd'hui. Alors, évidemment que ce sont des peuples, les Inuits du Groenland sont bien placés pour être au milieu de ces difficultés écologiques actuelles, ce changement climatique. Alors, le changement climatique, eux, ils le perçoivent depuis très longtemps. Ils essaient de s'y adapter du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'y sont pas confrontés de la même manière selon qu'ils sont agriculteurs dans le sud du Groenland ou chasseurs dans le nord. Ils ne le perçoivent pas de la même manière, et ils ont l'optimisme qui les pousse à trouver des solutions ponctuelles tout en gardant ce lien, et c'est là que ça rejoint votre question, ce lien à l'environnement très fort, quelle que soit leur position, leur activité, cette capacité à et cette conscience à penser qu'il faut rester humble par rapport à ce qui se passe dans la nature et il ne faut pas essayer de la dominer, mais au contraire, de vivre avec.
Marie Rouet, sur cette question de la préoccupation écologiste, du côté des Samis, comment on voit les choses? Est-ce qu'on considère que le réchauffement climatique est d'abord et avant tout, voire seulement, une catastrophe mondiale, ou on le voit aussi comme une formidable opportunité qui va libérer un certain nombre de ressources, et donc il y aurait aussi un récit positif, enthousiaste autour de tout cela. Ça existe aussi, Marie Rouet?
Pour les Samis, il n'y a pas de côté positif très visible pour le moment, parce que, comme je vous disais, ça enclenche un développement déjà très très prégnant sur leur territoire et qui s'aggrave et qui devient de plus en plus, comme il coûte moins cher et que c'est plus facile pour les industries, ils sont de plus en plus aux prises avec différents développements. Et c'est, je crois, la conjonction de tous ces faits et le fait que, malgré tout, ils n'ont plus du tout le territoire qu'ils avaient, mais aussi ils n'ont plus du tout la liberté de s'adapter comme ils le souhaitent, parce qu'ils sont pris dans des obligations par rapport à un État qui leur impose des dates, des lieux. Il faut absolument, tous les États n'aiment pas les gens qui bougent sans qu'on sache quand et pourquoi. Donc il faut décider d'avance que de telle date à telle date, c'est sur tel territoire que vous devez être. Et c'est évidemment d'autant plus difficile pour les Samis que de s'adapter avec un carcan administratif très lourd.
Mais pourtant, ils bénéficient quand même d'une certaine autonomie. C'était peut-être un petit peu fort, mais dans les pays où on trouve des Samis, du côté de la Finlande, du côté de la Norvège, de la Suède, il existe des parlements. C'est la Finlande qui avait ouvert le bal en 1973, et puis ensuite la Norvège et la Suède ont suivi avec des parlements Samis en 89 et en 1993. Vous nous rappelez les prérogatives de ces parlements et la marge de manœuvre que ça permet de donner vis-à-vis du pouvoir central, précisément?
Dans l'esprit des pouvoirs centraux, quand ces parlements ont été créés, c'était plutôt pour répondre à des spécificités culturelles. La langue, les différents arts, etc. Mais de plus en plus, c'est vrai qu'ils ont une portée politique et qu'ils revendiquent cette portée politique. Mais ils n'ont pas face au entre guillemets vrai parlement qui existe aussi dans ces pays. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnel. On leur demande leur avis. Ils gèrent parfois des fonds. Ils essaient de plus en plus de faire des recherches, de répondre à des questions, d'avoir une voix. Mais ils n'ont pas un pouvoir réel. Législatif, par exemple, ils n'ont pas de pouvoir sur leur terre non plus.
Ils ont des droits d'usage, en réalité.
Ils ont remarqué qu'ils préféreraient qu'on ne fasse pas ça, mais ils n'ont pas le dernier mot.
Ils ont des droits d'usage, mais qui font quand même pas le figure devant les droits de propriété.
Les Samis, en général, dans ces pays finno-scandinaves, ont des droits, on leur reconnaît des droits d'usage, mais ils doivent faire face à des droits de propriété, parce que l'État a considéré que c'était leur territoire national, et après ont été divisés avec des propriétaires terriens, par exemple des propriétaires forestiers, qui eux sont propriétaires, et les Samis ont en effet du mal avec leur droit d'usage à être en face de propriétaires qui eux exploitent comme ils le désirent. Alors il y a des organismes qui permettent de discuter, mais les Samis sont toujours dans des positions difficiles.
Oui, il y a même des fois où juridiques, il arrive que les Samis l'emportent. C'est assez rare, mais ça arrive. On reviendra tout à l'heure sur une décision de la Cour suprême qui avait donné raison aux Samis. Mais on va le garder pour tout à l'heure. D'abord, on va faire
Oui, mais c'est vrai qu'ils sont tout le temps comme tous les peuples autochtones, en cours, parce que ça devient un des seuls moyens de faire respecter leurs droits.
Oui, bien sûr. Jean-Michel Huctin, allons du côté du Groenland. Alors, avant de parler de la manière dont on gère le territoire, l'autonomie dont on dispose, parce qu'effectivement, c'est un territoire à qui on a accordé un certain nombre de prérogatives depuis longtemps maintenant. Je propose d'entendre une voix, vous allez la reconnaître, c'est un homme qui s'intéresse beaucoup au Groenland, à tel point d'ailleurs qu'il était prêt à l'acheter.
Beaucoup de choses pourraient être faites. Le Danemark en souffre parce qu'il perd près de 700 millions de dollars par an en soutenant le Groenland. Donc pour eux, c'est à perte. Et stratégiquement, pour les États-Unis, ce serait bien. Nous sommes de très bons alliés avec le Danemark, nous protégeons le Danemark comme nous protégeons une grande partie du monde. L'idée d'un rachat est donc apparue et j'ai dit oui, d'un point de vue stratégique, ce serait intéressant. Mais nous allons voir, leur parler un peu. Ce n'est pas la priorité, je peux vous le dire.
Jean-Michel Huctin, vous avez reconnu évidemment Donald Trump qui avait proposé à la stupeur générale de racheter purement et simplement le Groenland au Danemark. C'est vrai qu'après tout, c'est tellement simple. L'affaire avait provoqué un incident diplomatique d'ailleurs, hein, parce que il avait annulé son déplacement, Donald Trump, du côté du Danemark, alors que la chef du gouvernement, Mette Frederiksen, avait qualifié l'idée d'absurde. Il n'empêche que cette affaire, elle révèle l'intérêt suscité par la perspective de l'exploitation de ces nouvelles ressources et peut-être offre une opportunité politique à ce Groenland. C'est un territoire qui a eu une première autonomie en 1979. Et puis en 2008, les Groenlandais se sont prononcés par référendum sur une autonomie renforcée qui a été approuvée à 75% des suffrages exprimés, qui a ensuite été entérinée par le Parlement danois. Est-ce qu'au fond, cette perspective, ces perspectives de nouvelles richesses pourraient permettre aux Groenlandais de gagner encore plus d'autonomie, voire même d'atteindre l'indépendance? Parce que après tout, ils ont là un formidable outil qui va leur permettre de négocier des choses, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider de mettre en place des partenariats commerciaux stratégiques avec tel ou tel pays, et ils pourraient très bien, au fond, négocier avec le Groenland leur indépendance contre l'exploitation de leurs richesses, Jean-Michel Huctin.
Oui, vous avez rappelé par l'acquisition de l'autonomie politique en 79 et l'autonomie renforcée en 2009, la situation différente des Samis, la situation des Inuits du Groenland est plus favorable et donc ils ont répondu à Trump qui leur a fait une grande publicité partout dans le monde, qu'ils n'étaient pas à vendre, mais qu'ils étaient ouverts pour les affaires, si ces affaires en tout cas étaient équitables pour les uns comme pour les autres, et d'abord pour eux. Et alors il faut voir que les Groenlandais sont aujourd'hui inclus dans les tables de négociation internationale. Le Danemark laisse aux dirigeants politiques groenlandais la possibilité de donner leur avis et de proposer des solutions. Mais en fait, les Groenlandais considèrent que c'est les ressources qui sont les leurs leur appartiennent et qu'ils ne peuvent pas toujours rester devant les critiques occidentales qui ont déjà il y a longtemps essayé de d'intervenir par rapport à la chasse aux phoques. Alors eux ne chassaient pas les bébés phoques qui ont été dénoncés, mais on leur a interdit de vendre ces peaux de phoques de manière internationale. Donc leurs ressources, c'est aussi les poissons, c'est aussi ces richesses qui viennent de la mer, mais attention à la surexploitation des fonds marins, et donc il faut limiter aussi les Groenlandais. Alors, comment peut-il avoir des ressources ?
La question, Jean-Michel Huctin, est-ce qu'il pourrait décider, pardon de vous couper, est-ce qu'il pourrait, et est-ce qu'on le sent déjà, avoir envie de monnayer d'une certaine manière l'accès à ces ressources contre l'indépendance ? Est-ce que c'est un scénario possible qu'on voit des, qu'on verrait peut-être
c'est
déjà
un scénario, c'est un scénario possible, mais c'est ce que j'essaye d'expliquer. Alors il faut, c'est difficile d'expliquer en quelques mots. C'est une situation complexe. Les Groenlandais ne cherchent pas à se vendre à tout prix. C'est un débat qui a lieu dans la société. C'est un développement qui est prudent, qui prend en compte quelque part l'avis des populations, parce que il y a eu des projets qui n'ont pas eu lieu alors qu'ils étaient extrêmement prometteurs. On discute beaucoup du deuxième gisement de terres rares dans le sud du Groenland. Peut-être qu'ils vont donner la possibilité de l'ouvrir, mais peut-être pas. Voilà, les Groenlandais espèrent ont l'idéal de la Norvège comme objectif, et c'est de manière à offrir à leur population un niveau de vie élevé dans le cadre d'un système qu'ils n'ont pas choisi. Ça, c'est très important.
L'idéal de la Norvège, alors là, je me tourne vers vous, Marie-Roué, est-ce que véritablement on considère dans les zones septentrionales de Norvège, chez les Samis, qu'on est dans un idéal de développement et que effectivement on accède à ces nouvelles ressources avec le respect total des populations qui y vivent. On est très très loin du compte, Marie-Roué, parce que autant sur le Groenland, il y a effectivement un certain nombre de domaines de compétences qui ont été transférés, et des domaines très importants, la police, la justice, la santé, on a quand même une main très importante sur ce qu'on peut faire en termes de développement et sur ce qu'on peut pas faire, mais du côté des Samis, c'est très différent. Malgré les parlements Samis qui existent dans les trois pays scandinaves, on n'a quasiment aucun pouvoir politique, Marie-Roué.
Non, ils n'ont pas de pouvoir sur ces grandes décisions. Par exemple, l'exploitation du gaz et du pétrole dans les territoires sur la mer de Barents, en mer du Nord, on ne leur demande nullement leur avis. Et il faut qu'ils répondent à chaque fois de façon extrêmement difficile, c'est-à-dire que chaque petit groupe doit, en face de chaque exploitant, essayer d'expliquer son point de vue. Et parce qu'ils n'ont pas de droit sur ces ressources. Ceci dit, on parle de toutes leurs difficultés qui sont réelles. Mais il faut aussi dire que ce sont des peuples extrêmement résilients, extrêmement innovateurs, qui, malgré ça, continuent à inventer des nouvelles façons d'être dans la modernité. Mmh. Et chez les Samis en particulier, il y a un développement culturel extraordinaire, des chanteurs, des cinéastes, des romanciers et romancières. Il y a aussi le développement fort d'un groupe avec sa diversité. C'est-à-dire que dans une famille, on a souvent quelqu'un qui est peut-être journaliste à la radio, quelqu'un qui est éleveur de rennes et un autre qui sera médecin. Toutes ces activités se conjuguent pour ensemble essayer d'avoir un mode de vie résilient et permettre toujours de rester sur sa terre en ayant son identité. Donc ils essaient de trouver des solutions qui sont un peu semblables à celles, par exemple, de nos paysans, avec des multi-activités pour continuer à être face à des difficultés, effectivement, qui sont importantes.
Eh oui, s'adapter, c'est évidemment aussi diversifier les compétences. Mais vous parliez d'éleveurs de rennes, justement. On chausse nos chaussures, on chausse nos gants et on y va.
C'est culturellement important pour toute la communauté et toutes les municipalités aussi, parce que la viande de renne est un produit important. On peut la trouver dans les magasins, dans les restaurants, donc beaucoup de gens sont indirectement liés à l'élevage de renne.
C'est notre terre, donc c'est à nous de décider où les gens doivent être pour ne pas perturber les troupeaux. C'est ce qu'a décidé la Cour suprême suédoise. C'est une victoire pour nous. Garder la nature telle qu'elle est, ne pas l'exploiter ni la détruire, c'est de ça qu'il s'agit. On ne doit pas couper la branche sur laquelle on vit.
Et cet éleveur de rennes qui fait référence à cette décision début de l'année 2019, les Samis remportaient effectivement une victoire importante avec cette Cour suprême suédoise qui a tranché en leur faveur dans un conflit entre l'État suédois et un village sami du Grand Nord. Et pour qui? Eh bien, c'est bien aux Samis de décider de qui a le droit ou pas de pêcher, de chasser sur leur territoire en vertu de leurs droits ancestraux. Marie-Herouet, cette décision, c'est un tournant qui pourrait faire jurisprudence et ouvrir au fond une nouvelle ère dans la marge de manœuvre de ce peuple à maîtriser la gestion de son territoire. Et puis de façon générale, est-ce que vous croyez, vous, Michel, Marie-Herouet, que le droit peut venir, jusqu'où est-ce qu'il peut venir en aide à ces peuples autochtones, Marie-Herouet?
Oui, c'est certain. Il y a d'ailleurs des jeunes Samis, hommes et femmes, qui se spécialisent dans le droit et qui deviennent avocats. Il est important pour eux de défendre leurs droits en cours. Et ils ont pour cela pas seulement besoin d'avocats, ils ont besoin de recherche également. Ils travaillent avec des historiens pour prouver, par exemple, leur utilisation du territoire, parce qu'on leur demande des preuves qui sont pas faciles à donner sur papier, et il leur faut faire des recherches pour démontrer l'usage des forêts, par exemple, montrer que ils mangeaient autrefois l'écorce de certains arbres, et on retrouve des traces en allant dans ces forêts pour voir l'ancestralité de leur occupation. Donc il leur faut à chaque fois montrer leur usage et montrer la continuité de l'usage de leur territoire, mais à chaque fois une victoire donne de l'espoir, peut permettre peut-être d'aller plus loin, c'est vrai, mais c'est toujours dans une situation où il faut continuer à se battre sur chaque nouvelle situation qui se développe. Donc il n'y a pas de droit en soi vraiment établi. À partir du moment où on n'a pas de reconnaissance de leurs droits territoriaux.
Alors,
il y a par exemple des droits à gérer Laponia qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et ils ont aussi, après 10 ans de conflit, 11 ans de conflit, réussi à obtenir une co-gestion, et ils peuvent maintenant gérer avec d'autres gestionnaires naturalistes ce territoire. Donc ils essayent toujours et ils travaillent énormément pour le faire. Ils arrivent à grignoter des droits, à récupérer leurs droits.
Petit pas par petit pas.
Les femmes sont très très importantes d'ailleurs
dans ce processus.
Dans ce combat.
Jean-Michel Huctin, sur cette question du droit, justement, parce qu'effectivement, alors c'est des petits pas, mais ça avance. Il y avait eu en 2007 cette déclaration sur les droits des peuples autochtones qui avait été adoptée du côté des Nations Unies. Alors peut-être peut-on rappeler très rapidement ce qu'il y avait dans ce texte, Jean-Michel Huctin, mais surtout c'est l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, par exemple, chez les Inuits du côté du Groenland, puisque c'est votre terrain à vous, Jean-Michel Huctin.
Alors, je voudrais rappeler quand même que tous les Inuits ne réagissent pas d'une manière similaire. Il y a des débats qui traversent la société, et je pense par exemple à une grande partie de la société de la population qui s'oppose à l'exploitation de l'uranium à travers le mouvement Uraninamik. Je pense aussi à ces lycéens qui se mobilisent contre le changement climatique. Des débats qui traversent la société aussi sur non seulement les conséquences environnementales, mais aussi sociales du développement de l'extraction minière, notamment par la possibilité de main d'œuvre qui viennent de l'extérieur et qui seraient beaucoup plus nombreuses que les petites communautés groenlandaises. Donc c'est vraiment le souci de l'environnement est aussi une préoccupation groenlandaise, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des débats qui ont lieu dans toute la société. Alors évidemment le droit, mais que vaut le droit face aux appétits financiers, économiques, face aux dures réalités de la géopolitique, face aux nécessités de la transition écologique vue d'un point de vue occidental qui recherche des terres rares pour alimenter les éoliennes ou les nouvelles technologies moins carboné. Donc voilà, c'est des contradictions.
Ça passe pas bien lourd, évidemment, ça passe pas bien lourd. Et d'ailleurs, on le voit dans une entité politique, Jean-Michel Huctin, dont on a déjà parlé un peu cette semaine, c'est le Conseil de l'Arctique, qui est ce forum intergouvernemental qui a été créé dans les années 90, qui est censé traiter des problèmes que rencontrent les gouvernements de tous ces États qui partagent cet espace arctique. Et les peuples autochtones y ont une place via un certain nombre d'entités. Le Conseil Circumpolaire Inuit, l'Association des peuples autochtones du Nord et de la Sibérie et de l'Extrême-Orient, de la Fédération de Russie, le Conseil Sami, etc., etc. Il y en a d'autres. Mais évidemment, on se dit que ces peuples autochtones ont bien du mal à peser face à des gouvernements. Jean-Michel Huctin.
Rien d'étonnant là-dedans, rien d'étonnant. Mais disons que si on regarde il y a 30 ans et si on regarde la situation aujourd'hui, elle est quand même un tout petit peu différente. Aujourd'hui, ils ont droit à la parole, on les écoute. Mm-hmm. Alors évidemment, on va pas forcément prendre en compte tout ce qu'ils disent, déjà, il y a cette ouverture. Alors la situation, elle est évidemment différente en fonction des peuples. Les Samis sont bien moins lotis de ce point de vue-là que les Groenlandais du fait de l'histoire, du fait des métropoles qui les administrent ou les administraient dans l'époque de la colonisation. En tout cas, il y a, je m'associe tout à fait à ce que disait Marie Rouet sur leurs capacités de résilience qui sont incroyables et qui moi me fascinent et qui me motivent à continuer à être avec eux, à mieux comprendre leur stratégie d'adaptation et à partager avec eux la joie qu'ils ne les quittent jamais, quand bien même ils sont dans les pires difficultés.
Pour la langue sami, bien sûr, nous devons vivre sous la pression de la culture dominante et nous devons nous battre afin de la préserver. Et bien sûr, c'est un grand défi d'essayer de retrouver une langue dont l'usage a disparu à un moment donné. Les pays du Nord font partie des pays les plus riches au monde. Et s'ils veulent préserver la diversité linguistique avec leur propre langage et leur propre culture, ils devraient trouver les ressources pour le faire.
Voilà, cet homme qu'on entendait, eh bien, c'est tout simplement le président du Parlement Sami de Finlande, Marie Rouet. C'est vrai qu'on s'inquiète beaucoup de la disparition d'un certain nombre de pratiques culturelles, voire de la langue même. Mais, vous le disiez un peu tout à l'heure, Marie Rouet, il y a aussi un renouveau de la culture Sami, un dynamisme absolument incroyable. Et vous le disiez en particulier chez les jeunes. Vous nous expliquez un peu, Marie Rouet, justement, comment s'illustre ce renouveau culturel sur lequel il faut compter aussi. Marie-Rouet, est-ce que vous m'entendez ?
Une réussite vraiment très très grande. Les jeunes continuent dans les régions où les Samis sont majoritaires à parler Sami. Ils continuent à être fiers de pratiquer leur culture et il y a des jeux, par exemple, au moment de Pâques, où il y a des concours, où ils sont traînés par des reines. Il y a des nouvelles. Les chansons Sami commencent à être connues, des mélanges. Il y a des cinéastes et je crois que des artistes qui parfois d'ailleurs se servent se servent de leur art pour aller manifester devant le Parlement. Il y a une artiste Sami qui a été déposée des crânes de rennes devant le Parlement le Parlement national cette fois-ci pour montrer qu'on leur demandait d'abattre leurs troupeaux sous prétexte de surpopulation de rennes, et elle l'a montré avec des tas de crânes de rennes, en évoquant aussi une autre époque qui était celle où on abattait les bisons en Amérique. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans cette ruée vers l'Arctique, ruée vers les ressources extraordinaires de l'Arctique, qui ressemble un peu à ces ruées qu'on a vues à d'autres périodes dans d'autres continents. Il y a en même temps cette réponse, vraiment un immense développement créatif et qui est tout à fait intéressant. Et ce qui rend très très fort les Samis, c'est cette cohésion. C'est que c'est pas parce qu'on est devenu un artiste internationalement connu ou parce qu'on est devenu un professeur de médecine qu'on va pas continuer à aller aux réunions d'élevage du renne et à lancer le lasso. On garde ce lien permanent et chacun développe le métier qu'il a entrepris, mais en lien avec la société, avec la famille d'abord. Les femmes ont été très très fortes, parce qu'à un moment, on a les réglementations ont voulu les mettre dehors, alors que les femmes samis traditionnellement possèdent des rennes et sont vraiment très très importantes.
Même si ce lien, il est aussi extrêmement difficile à maintenir, on va le voir tout de suite avec notre nouvel invité. On va s'intéresser à cette émigration délicate des jeunes Inuits du Groenland du côté du Danemark, où on va le voir, les choses ne sont pas toujours faciles.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
De grands hommes danois sont venus taper à notre porte. Ils voulaient parler à ma mère. Ma mère m'a ensuite expliqué qu'ils souhaitaient m'envoyer dans un autre pays. J'ai demandé à ma mère ce que c'était le Danemark. Elle m'a répondu, c'est un petit pays loin, très loin. C'est vraiment très beau, le paradis.
Voilà, on entendait à l'instant un extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur Arte. Les enfants cobayes du Groenland dans les années 50, l'État danois avait arraché à leur famille 22 enfants du Groenland pour les faire participer bien malgré eux à une expérience sociale. Ils avaient été envoyés dans un centre de rééducation où ils devaient être danisés, je mets des guillemets, pour former la future élite du Groenland. Ça a été un drame humain, un drame social. Beaucoup de ces jeunes se sont retrouvés dans une situation extrêmement dramatique. Certains se sont même suicidés. Alors évidemment, aujourd'hui, la situation est bien différente. Les jeunes ne sont plus forcés. Il n'empêche qu'ils vont du côté du Danemark et que cette expérience n'est pas toujours simple. On va accueillir une nouvelle invitée. Marine Duc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorante en géographie à l'université Bordeaux-Montaigne et rattachée au laboratoire Passage. Cette expérience terrible des années 50 que je viens d'évoquer, il se trouve que pour la première fois, l'État danois vient officiellement de présenter ses excuses à ces jeunes enfants qui ont été arrachés à leur famille pour former, je mets des guillemets, cette élite groenlandaise. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a présenté ce mardi des excuses officielles, c'était mardi dernier d'ailleurs. Comment vous interprétez ces excuses de la Première Ministre, Marine Duc?
Oui, alors, ces excuses, elles ont quelque chose d'historique, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu déjà, par le passé, une demande officielle formulée par le gouvernement du Groenland et par Kuupik Kleist, un ancien Premier Ministre du Groenland, à l'égard du gouvernement danois. Qui a été refusé en fait en 2009. Ce refus de présenter des excuses a été formulé, a été justifié en fait par l'idée que ce n'était pas nécessaire pour le Danemark de présenter des excuses. Et en fait, c'est un événement historique parce que vous avez au Danemark encore la persistance d'un rapport très complexe en fait à la mémoire coloniale que plusieurs historiens qualifient d'exceptionnalisme danois ou d'exceptionnalisme nordique. Alors qu'est-ce que c'est l'exceptionnalisme danois? C'est l'idée que dans les pays nordiques, que les pays nordiques en général, auraient occupé une position périphérique dans l'histoire coloniale européenne. donc à la fois par l'ampleur de leurs colonies, hein, qui sont bien moindres que l'Empire français ou l'Empire britannique, mais aussi avec cette idée qu'ils auraient été un bon colonisateur, entre guillemets, ou qu'ils auraient porté en fait un colonialisme bienveillant. Voilà, donc c'est une sorte de mythologie nationale qui entoure le récit de la colonisation et qui participe à une invisibilisation des violences coloniales et puis bien sûr un refus de reconnaître l'implication du Danemark dans la colonisation.
Alors essayons de comprendre comment tout cela pèse aujourd'hui, Marine Duc. Vous avez fait vous tout un travail de terrain sur le départ de cette jeunesse groenlandaise, inuite pour la grande majorité, qui se rend au Danemark pour y suivre des études et qui est arrivée sur place et confrontée. Alors je ne sais pas ce qu'il faut utiliser comme terme, une forme de stigmatisation c'est certain, voire même à une forme de discrimination. Vous pouvez nous aider à y voir plus clair, c'est quoi? C'est de la stigmatisation, c'est de la discrimination, c'est quoi?
Oui, alors et ben en fait c'est un peu les deux, hein. Donc eux ils vont utiliser le terme danois de fordom le plus souvent, donc ça veut dire préjugé. Mais ils vont aussi parler de racisme, ils vont parler de racisme quotidien, ils vont parler de discrimination, de stigmatisation. Donc en fait, c'est, si vous voulez, ça s'explique par le fait que la migration étudiante va confronter ces étudiants. Pour quelques chiffres de contexte, hein, la population du Groenland, elle est identifiée à entre 80 et 90% comme inuit. Donc il n'y a pas de statistiques ethniques au Danemark ni au Groenland, donc c'est vraiment quelque chose de très vindicatif. Mais quand ils vont se déplacer au Danemark, ils vont être confrontés à un contexte où la blanchité, si vous voulez, de la population est codée comme le normal, et on va associer tacitement la danicité ou la nordicité à la blanchité. Et ce, d'autant plus que la migration étudiante va être associée à des lieux qui sont socialement sélectifs, donc les établissements d'enseignement supérieur et bien sûr les universités encore plus.
Et alors comment on répond, Marine Duc, à cela? Je veux dire, quand on est un jeune Inuit parti au Danemark pour faire ses études, est-ce que on affirme son appartenance culturelle, identitaire d'origine, ou est-ce qu'au contraire on a plutôt tendance à le mettre à distance pour éviter justement cette stigmatisation?
Ben c'est une très bonne question. Et en fait, on a autant de réponses qu'on a d'individus. Hein. Bien sûr, les personnes sont absolument pas passives face à ces phénomènes de stigmatisation. Donc on va avoir des réponses individuelles. Hein. Ça peut aller de l'explication d'un petit point sur qu'est-ce que c'est l'histoire du Groenland. Non, au Groenland, on ne vit pas dans des igloos. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et puis on a aussi certains collectifs qui vont s'organiser, notamment l'association des coloniales Nalik. Nalik qui veut dire égalité, enfin c'est une façon de dire égalité, Monsieur Huctin confirmera peut-être. Et en fait ils vont participer notamment à organiser des conférences sur l'histoire du Groenland, sur l'histoire coloniale, pour essayer, si vous voulez, de participer à renseigner en fait sur qu'est-ce que c'est que le Groenland et à pas essayer de ralentir cette stigmatisation dont les jeunes sont l'objet.
Et ce qui est assez difficile, Marine Duc, pour ces jeunes-là qui sont, alors évidemment ils partent de leur plein gré, mais il y a quand même, vous expliquez très bien dans un papier que j'ai lu pour préparer cette émission qui avait été publié dans la revue Espace Population et Société, qu'ils sont quand même un peu poussé, c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite pression sociale, une petite pression familiale qui va pousser ces jeunes à aller se former du côté du Danemark et ensuite revenir pour participer au développement du territoire, de la communauté. Et ce que vous racontez, c'est que le retour n'est pas toujours simple, c'est-à-dire que on a aussi un peu une sorte de double peine. Le retour, l'accueil dans la communauté d'origine est pas simple, parce qu'on est une nouvelle fois stigmatisé. D'une certaine manière, on n'est plus tout à fait inuit, puisqu'on a été précisément danisé en allant étudier au Danemark. Marine Duc.
Oui, alors, bien sûr. En fait, si vous voulez, il faut rappeler déjà, pour avoir un peu en tête ces chiffres, que 60% de la population groenlandaise n'a pas poursuivi d'études au-delà de l'école obligatoire. Au Danemark, ce chiffre, il est à 24%. Donc en fait, on a déjà, si vous voulez, la place de l'école, elle est très particulière dans la société groenlandaise. Et en fait, les pouvoirs publics groenlandais vont faire un lien très fort entre l'indépendance, l'économie bien sûr, et via l'économie, avec le manque de compétences en fait de la population groenlandaise. Bon, bien sûr, la connaissance et les compétences sont des choses extrêmement compliquées à quantifier, mais ce manque de compétences est constitué un problème social. Donc la migration est très encadrée par les pouvoirs publics groenlandais. Et effectivement, au moment du retour, donc ça va se jouer donc c'est un petit peu compliqué de parler dans ce sens-là de stigmatisation. Je suis pas sûre que ça soit complètement une stigmatisation, parce qu'encore une fois, tout dépend de d'où ils partent, de où ils reviennent, de quel milieu social ils sont originaires. Mais en tout cas, eux-mêmes, les étudiants, vont avoir tendance à mettre en avant cette double identité, si on peut dire, à la fois comme détenteur d'un master et en même temps d'un pêcheur ou chasseur quand ils viennent du Nord.
Et c'est toujours cette tension qu'on décrit depuis tout à l'heure, en fond, entre tradition et modernité. C'est un peu cliché, mais c'est exactement ce qu'il se passe avec ces peuples autochtones. Jean-Michel Huctin et Marie Rouet, peut-être une réaction, et en guise de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission. Jean-Michel Huctin d'abord, puisque vous êtes un spécialiste, vous, des Inuits, et donc de ce contexte groenlandais. Jean-Michel Huctin.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Marine Duc à propos de cette jeunesse. C'est l'un des symptômes des difficultés actuelles. Mais il faut aussi comprendre c'est à la fois cette nécessité d'éducation et cette dépendance des instituts de formation étrangers, notamment au Danemark, et le fait que ces jeunes restent très longtemps une grande partie de leur vie à l'étranger, donc ils développent cette double identité. Mais il y a des choses qui peuvent nous rendre optimistes, et je vois par exemple une partie de la jeunesse, notamment à Nuuk, la capitale, qui prend des positions de plus en plus affirmées pour revendiquer son identité inuite et sans se couper du reste du monde. Je pense par exemple à ces rappeurs inuits qui prennent le devant de la scène.
Vous en connaissez des rappeurs inuits, Jean-Michel Huctin ?
Bien sûr, j'en connais des rappeurs qui sont aujourd'hui affirmés et certains qui rêvent de le devenir, parce qu'une partie de la jeunesse inuite fait de la musique comme un hobby, et ils expriment des choses d'ailleurs qui s'expriment pas ailleurs dans la société par l'intermédiaire de leur musique, et ils se sentent reliés aux jeunes des autres pays du monde.
Eh ben, on en connaît un aussi, nous, ici, il s'appelle Tarak, écoutez. انا سونا اوكسب بون وانا غني لكلا تقصم غيلي ني ارتيتي استامو قفيانا ني بنفس ما يوانا سنانا تنسيستي لي صمنا تمتني ايوني لامي كلا لي سنيني اكيني سي كوسو توسويت كلا لي اون رابيتو تا يوسونا اسكي مو كاكا اتيكا بني سيانا غي يا بي اردي تابي قسونا تستان تو بيلا نابو تو بيلا نابو. Et voilà, c'est un titre qui s'appelle Tupilak, de ce rappeur groenlandais, Tarak. Donc effectivement, ça illustre bien, Jean-Michel Huctin, ce que vous disiez, ce renouveau culturel que nous décrivait tout à l'heure Marie Rouet chez les Samis. Eh bien, il est aussi extrêmement fort du côté du Groenland, chez les Inuits. Un grand merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces pays nordiques et ces peuples autochtones. Marine Duc, Jean-Michel Huctin, Marie Rouet, un grand merci à vous. Évidemment, vos présentations, vos articles, les références, tout ça, c'est à retrouver sur la page de France Culture, sur la page de Culture Monde. On se retrouve demain. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
On entend souvent dire, Brice, que la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre du monde. C'est ce qu'écrit Zhang Jinwei.
Et c'est exact. Elle est immédiatement suivie par les États-Unis. Mais il faut comparer ce qui est comparable, à savoir les émissions et surtout la consommation de carbone par habitant. Or, comme la Chine compte 1,4 milliard d'habitants, les États-Unis seulement 332 millions, cela signifie que chaque Américain pollue en réalité deux fois plus que chaque Chinois. Et que chaque Allemand consomme 80% de plus de carbone que chaque Chinois. Mais si l'on ajoute, poursuit Zhang Jinwei, que les gaz à effet de serre, qui sont très probablement à l'origine du réchauffement constaté depuis plusieurs décennies, ne se dissipent que lentement dans l'atmosphère, c'est tous ceux qui ont été accumulés depuis les débuts de la révolution industrielle au XIXe siècle qu'il faut donc prendre en compte. Et là, les responsables sont largement européens. Enfin, si l'on prend en compte le critère de la consommation de dioxyde de carbone plutôt que sa production, faisant ainsi entrer en ligne de compte les importations de marchandises ayant nécessité de telles émissions, on s'aperçoit que les Occidentaux sont encore plus coupables. Ils ont simplement délocalisé leurs industries polluantes sans renoncer pour autant à leur mode de vie. Or, poursuit cet ancien économiste en chef de la Banque asiatique de développement, les performances de chaque pays en matière de réduction de la pollution pèsent désormais dans la compétition pour le leadership mondial. Les pays vertueux obtiennent une meilleure réputation dans l'opinion publique mondialisée, et c'est bien pourquoi leurs chefs de gouvernement font assaut de promesses, mais pour un avenir relativement lointain. On ne peut plus se contenter de ces promesses, dit-il. La meilleure manière de contraindre les États à respecter leurs engagements, c'est la mise en œuvre d'une taxe carbone sérieuse. Elle aurait pour effet de rendre les exportations chinoises plus coûteuses, donc moins compétitives. La meilleure manière de contraindre la Chine à respecter sa promesse d'atteindre la neutralité carbone en 2060.
Le départ de Donald Trump, Brice, climato-sceptique avéré, et son remplacement par Joe Biden, qui s'est engagé, lui, à rejoindre l'accord de Paris, constitue une chance pour les Américains et les Chinois de coopérer sur les causes du changement climatique.
C'est ce qu'écrit Ming-Hsin Pei, qui est professeur de sciences politiques, lui, aux États-Unis. Mais Biden s'est aussi engagé à constituer une large alliance de pays démocratiques pour contrer l'expansionnisme chinois. Or, Xi Jinping a bien l'intention de conditionner son empressement à s'entendre avec les États-Unis sur les problèmes d'environnement à l'amélioration des relations sino-américaines. C'est un chantage qu'il faut refuser, selon Ming-Hsin Pei. L'humanité, écrit-il, fait face à un avenir réellement calamiteux si les deux plus importantes économies du monde, qui sont aussi les plus gros émetteurs de CO2, ne s'engagent pas à coopérer pour s'atteler à la question du changement climatique. Aux États-Unis, prévaut l'idée que réduire ses émissions de gaz à effet de serre est dans le propre intérêt de la Chine, que la population du pays finira par exiger que ses dirigeants optent enfin pour une moindre consommation de charbon, cette source d'énergie redoutablement polluante. Or, il faut savoir que 52% du charbon brûlé à la travers la planète l'est encore en Chine, un désastre écologique. Le niveau de la pollution dans les grandes villes chinoises est une cause de mécontentement qui mine l'autorité du Parti communiste au pouvoir dans le pays. Mais dans l'idée des dirigeants chinois, c'est surtout l'Occident qui est demandeur en matière d'action pour la préservation du climat. Et c'est pourquoi ils estiment pouvoir exiger des contreparties élevées pour tout engagement dans ce domaine. Au sommet Ambition Climat, cette année, Xi Jinping a réitéré l'engagement de son pays d'atteindre un pic de ses émissions de CO2 en 2030, puis de les faire progressivement baisser afin de parvenir à la neutralité carbone avant 2060, dans 40 ans. De telles déclarations sont destinées à améliorer l'image internationale de la Chine, selon Ming-Hsin Pei. En arrière-plan, le régime chinois entend bien d'obtenir des concessions politiques pour ses engagements. En particulier, une réduction des droits de douane imposés par l'administration Trump sur un certain nombre d'importations en provenance de Chine. La Chine va aussi demander aux États-Unis des transferts de technologies utiles à la production d'énergie non polluante, ce qui est acceptable. Mais cela pourrait aller jusqu'à demander aux Occidentaux de mettre en sourdine leur mise en cause pour les violations des droits de l'homme des musulmans ouïghours. Il y a là un piège pour Biden, car si les deux plus grands pollueurs de la planète ne parviennent pas à un accord, la diplomatie chinoise saura fort bien en faire porter la responsabilité aux seuls Américains.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Demain, on vous retrouve sur le numérique seulement et puis on vous retrouvera l'année prochaine, hein, donc le 4 janvier, après une petite pause hivernale, cher Brice. Dans un très court instant, c'est Olivier Gesbert et La Grande Table.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture, des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.